Chapitre 2. Fragment de la philosophie secrète propre à expliquer le commerce avec le monde des esprits. L'initié a déjà habitué l'entendement grossier et enveloppé des sens extérieurs à des notions abstraites plus élevées, et maintenant, il peut voir ce crépuscule qui sert à la faible lumière de la métaphysique à rendre sensible le royaume des ombres, des formes spirituelles et dépouillées de leur corporelle enveloppe. Après avoir heureusement surmonté cette difficile épreuve, nous tenterons donc le périlleux voyage. Ibant obscuri sola sub nocte per umbras, perque domos ditis vacuas et inania regna. Virgile. La matière morte qui remplit l'espace cosmique est de sa nature inerte et sans changement. Elle a solidité, étendue et figure, et ses phénomènes, qui reposent sur tous ses fondements, permettent de donner une définition physique qui est en même temps mathématique et qui peut aussi prendre le nom de mécanique. Si, d'un autre côté, on fait attention à cette espèce d'être qui contiennent le principe de la vie dans l'univers, et qui, par cette raison, ne sont pas de telle espèce qu'ils augmentent comme partie constitutive la masse et l'étendue de la matière morte, et n'en sont point affectés suivant les lois du contact et du choc, mais plutôt s'excitent même par une activité interne, et de plus excitent la matière morte de la nature, on sera persuadé, sinon par la clarté d'une démonstration, du moins par le pressentiment d'une intelligence exercée, de l'existence d'êtres immatériels, dont les lois particulières d'action sont appelées pneumatiques et organiques quand les êtres corporels sont des causes médiates de leurs actions dans le monde matériel. Comme les êtres immatériels sont des principes spontanés, par conséquent des substances et des natures subsistant par elles-mêmes, la conséquence à laquelle on arrive de suite est celle-ci, que ces substances sont immédiatement unies entre elles et sont peut-être capables de constituer un grand tout qu'on peut nommer le monde immatériel, mundus intelligibilis. De quelles raisons vraisemblables, en effet, pourrait-on affirmer que pareils êtres, de même nature les uns que les autres, ne peuvent être en rapport entre eux que par le moyen d'autres êtres, choses corporelles, de nature différente, quand cette dernière hypothèse est beaucoup plus obscure que l'autre. Ce monde immatériel peut donc être considéré comme un tout subsistant par lui-même, dont les parties sont entre elles dans une liaison réciproque et forment ainsi un commerce sans l'intervention de choses corporelles, de telle sorte que ce dernier rapport est contingent et ne peut convenir qu'à quelques-unes. Il n'empêche pas que les êtres immatériels qui agissent les uns sur les autres par le moyen de la matière ne soient de plus en liaison particulière et constante et n'exercent toujours entre eux des influences réciproques comme des êtres immatériels, en sorte que leur rapport au moyen de la matière est purement contingent et repose sur un décret divin particulier, tandis que l'autre est au contraire naturel et indissoluble. Si donc on prend de cette manière tous les principes de vie en une nature totale comme tout autant de substances incorporelles en commerce réciproque, mais aussi en partie réunies à la matière, on conçoit alors un grand tout du monde immatériel, une série immense mais inconnue d'êtres et de natures actives qu'anime seule la matière morte du monde corporel. Mais jusqu'à quelle partie de la nature s'étend la vie? Quels sont les degrés qui confinent immédiatement l'entière privation de la vie? C'est là ce qui ne pourra peut-être jamais se décider avec certitude. L'hylozoïsme anime tout. Le matérialisme, au contraire, bien considéré, tue tout. Maupertuis attribue le moindre degré possible de vie aux particules organiques vitales des animaux. D'autres philosophes n'y voient que des masses sans vie qui ne servent qu'à grossir les leviers des machines animales. Le caractère indubitable de la vie, en ce qui tombe sous nos sens extérieurs, est bien le libre mouvement qui fait présumer son origine volontaire. Mais le raisonnement qui conclut à l'absence totale de la vie dans le cas où ce caractère ne se montre pas n'est pas certain. Boerhaave dit quelque part que l'animal est une plante qui a des racines dans l'estomac, intérieurement. Des animaux peuvent donc manquer des organes du libre mouvement, et par là, des caractères extérieurs de la vie, organes qui sont cependant nécessaires aux plantes, parce qu'un être qui possède en soi les organes de nutrition doit pouvoir se mouvoir suivant ses besoins, mais que celui auquel ces organes sont attachés extérieurement et plongés dans l'élément de sa conservation est déjà suffisamment conservé par des forces extérieures. Et, quoiqu'il contienne un principe de la vie intérieure dans la végétation, il n'a cependant besoin d'aucune constitution organique pour son action volontaire extérieure. je ne désire point faire de tout ceci autant d'arguments, car, outre que j'aurais fort peu à dire à l'avantage de pareilles présomptions, elles ont encore contre elles, comme vieilles et poudreuses rêveries, la raillerie de la mode. Les anciens croyaient, en effet, pouvoir admettre trois espèces de vie, la végétative, l'animale et la raisonnable. Quand ils en réunissaient les trois principes immatériels dans l'homme, ils pouvaient bien avoir tort. Mais quand ils les distribuaient entre les trois genres de créatures qui se développent et reproduisent leurs semblables, ils disent bien, il est vrai, quelque chose d'indémontrable, mais qui n'était pas absurde pour cela, surtout dans le jugement de celui qui voulait comparer la vie particulière des parties séparées de quelques animaux, l'irritabilité, qui est prouvée, mais qui est en même temps une propriété si inexplicable des fibres d'un corps animal et de quelques plantes, et enfin la proche parenté des polypes et autres zoophytes avec les plantes. Du reste, le recours à des principes immatériels est un asile de la philosophie paresseuse, et un mode d'explication de cette nature doit, par cette raison, être évité autant que possible afin que les raisons des phénomènes cosmiques, qui reposent sur les lois et qui régissent le mouvement de la simple matière, et qui seules sont intelligibles, soient connues dans toute leur étendue. Je suis persuadé cependant que Stahl, qui explique volontiers par l'organisme les changements animaux, est souvent plus près de la vérité qu'Hoffmann, Boerhaave et beaucoup d'autres, qui, négligeant les forces immatérielles de l'organisme, et suivant cela une méthode plus philosophique, qui se trouve bien en défaut quelquefois, mais qui réussit souvent, et qui seule dans la science est une application utile, quand d'un autre côté, on ne peut tout au plus savoir de l'influence des êtres de nature incorporelle qu'une chose, qu'elle existe, et jamais comment elle a lieu, ni jusqu'où son action s'étend. Le monde immatériel comprendrait donc d'abord toutes les intelligences créées, dont quelques-unes sont liées à la matière et forment une personne, et d'autres pas. Ensuite, les sujets sensibles dans tous les animaux, et enfin tous les principes de la vie, quels qu'ils puissent être encore dans la nature, quoiqu'il n'y en ait aucune manifestation par des caractères extérieurs. Toutes ces natures immatérielles, dis-je, qu'elles exercent leur influence dans le monde corporel ou non, tous les êtres raisonnables, dont l'état contingent est animal, que ce soit ici sur la terre ou dans d'autres corps célestes qu'ils animent ou doivent animer un jour la grossière étoffe de la matière, ou qu'ils l'aient animée déjà, seraient, d'après ces idées, dans un commerce d'accord avec leur nature, et ce commerce ne reposerait pas sur les conditions qui limitent le rapport des corps, et où disparaît l'éloignement des lieux ou des âges, qui forment dans le monde sensible le grand abîme où disparaît tout commerce. L'âme humaine devrait donc être regardée comme liée déjà, dans la vie présente, aux deux mondes. Comme liée en une personne unique avec le corps, elle sent nettement de ces mondes l'influence matérielle seule. Comme partie du monde des esprits, elle sent et rend les pures influences des natures immatérielles, en telle sorte qu'aussitôt que la première liaison a cessé, la communauté où l'âme continue d'être avec les natures spirituelles subsiste seule et devrait donner d'elle-même à la conscience une claire intuition. Il me sera de plus en plus difficile de parler toujours le langage circonspect de la raison. Pourquoi ne me serait-il pas permis de parler du ton académique qui est tranchant et dispense aussi bien l'auteur que le lecteur de la réflexion, qui ne doit tôt ou tard les conduire l'un et l'autre qu'à une incertitude pénible? Il est donc comme démontré, ou bien il pourrait l'être facilement si l'on voulait en prendre le temps, ou bien encore, ce qui est mieux, il sera démontré un jour, je ne sais où ni quand, que l'âme humaine est, dès cette vie même, indissolublement unie avec les natures immatérielles du monde des esprits, qu'elle est en rapport d'action et de réaction avec eux, qu'elle en reçoit des impressions, mais dont elle n'a pas conscience comme homme tant que tout va bien. Il est vraisemblable aussi, d'un autre côté, que les natures spirituelles ne peuvent avoir immédiatement conscience d'aucune impression sensible du monde corporel, parce qu'elles ne sont liées en une personne avec aucune partie de la matière. Pour avoir conscience par le moyen de leur lieu commun dans l'univers matériel et par des organes artificiels du rapport des êtres étendus entre eux et entre d'autres, mais qu'elles peuvent bien exercer une influence sur les âmes des hommes comme êtres qui leur sont homogènes et soutenir toujours avec elles un commerce réciproque et réel. Et alors les représentations que contiennent l'âme comme être dépendant du monde corporel ne peuvent passer dans d'autres êtres spirituels ni les notions de ces derniers comme représentation intuitive de choses immatérielles, ne peuvent passer dans la claire conscience de l'homme, pas du moins en conservant leurs qualités propres, parce que les matériaux des deux sortes d'idées ne sont pas de même espèce. Il serait beau si une constitution systématique du monde spirituel, telle que nous la concevons, pouvait être conclue, ou même vraisemblablement présumée, en partant non seulement de la notion à la nature spirituelle en général, qui est très hypothétique, mais aussi d'une observation réelle et universellement reconnue. J'ose donc, comptant sur la bienveillance du lecteur, esquisser ici une étude de cette espèce. Quoique un peu en dehors de mon sujet, et très loin aussi de l'évidence, elle me semble cependant prêtée à des conjectures d'un certain intérêt. Au nombre des facultés qui meuvent l'esprit humain, quelques-unes des plus puissantes semblent lui être étrangères. Elle ne se rapporte donc, pour ainsi dire, pas comme simple moyen à l'utilité personnelle, ni aux besoins individuels comme à une fin qui est intérieure à l'homme même. Elles font au contraire que les tendances de nos passions transportent le foyer de leur réunion hors de nous, dans d'autres êtres raisonnables, d'où résulte une lutte de deux forces, de l'égoïsme qui rapporte tout à soi, et du bien public par lequel l'âme est poussée hors d'elle-même et attirée vers autrui. Je ne m'arrête pas au mobile qui nous fait adhérer si fortement et si généralement à l'opinion des autres, et nous fait estimer l'approbation ou l'assentiment étranger si nécessaire pour asseoir notre manière définitive de voir propre. De là, quoique ce soit assez souvent un faux point d'honneur, un trait secret dans le sentiment le plus impersonnel et le plus vrai, celui de comparer au jugement des autres ce qu'on estime bon ou vrai pour soi-même, et de mettre d'accord ces deux façons de voir. C'est aussi comme une manière de rattacher chaque âme humaine au vrai mode de connaître quand elle semble marcher dans une autre voie que celle que nous avons suivie. Tout cela pourrait bien être le sentiment de la dépendance de notre propre jugement à l'égard de l'entendement humain universel, et un moyen de procurer à tout être pensant une espèce d'unité rationnelle. Mais je ne m'arrête pas davantage à une considération qui n'est pas d'ailleurs sans intérêt, et je m'attache pour le moment à une autre qui est plus manifeste et plus importante au point de vue qui nous occupe. Quand nous rapportons des choses extérieures à l'un de nos besoins, nous ne pouvons le faire sans nous sentir en même temps liés et limités par une certaine sensation qui nous fait remarquer, comme la puissance d'une volonté différente de la nôtre, que notre bon plaisir propre est nécessairement subordonné à un assentiment étranger. Une puissance secrète nous force à régler en même temps nos vues d'après l'intérêt d'autrui ou suivant une volonté qui n'est pas la nôtre, quoique la chose arrive souvent malgré nous et qu'elle contrecarre fortement l'inclination personnelle. Le point de rencontre des lignes de nos mobiles n'est donc pas simplement en nous. Il y a aussi des forces hors de nous qui nous meuvent dans l'intérêt d'autrui. De là, des impulsions morales qui nous emportent souvent malgré l'intérêt personnel, la forte loi de la justice, la loi moins impérieuse de la bienfaisance, qui nous porte l'une et l'autre au sacrifice. Et quoique toutes deux ne soient que trop souvent dominées par l'égoïsme, jamais cependant elles ne manquent de se montrer dans la nature humaine. C'est ainsi que, dans les mobiles les plus intimes, nous nous trouvons dépendants de la règle de la volonté universelle, et qu'il en résulte dans le monde de toutes les natures pensantes une unité morale et une constitution systématique suivant des lois toutes spirituelles. Appeler sentiment moral cette nécessité en nous sentie de l'accord de notre volonté avec la volonté universelle, ce n'est en parler que comme d'un phénomène de ce qui précède réellement en nous, sans rien prononcer sur ses causes. C'est ainsi que Newton appelait gravitation la loi certaine de la tendance de toute matière à se rapprocher, parce qu'il pouvait mettre ses démonstrations mathématiques à l'abri de toutes les discussions philosophiques qui peuvent s'élever sur la cause du fait. Il n'hésita cependant pas à traiter cette gravitation comme un véritable effet d'une activité universelle de la matière considérée dans ses rapports, et lui donna en conséquence le nom d'attraction. Ne serait-il pas possible de se représenter le phénomène des mobiles sensibles dans les natures pensantes, dans leurs rapports respectifs, en quelque sorte comme la conséquence d'une force véritablement active, par laquelle des natures spirituelles s'influencent mutuellement, de telle sorte que le sentiment moral fût cette dépendance sentie de la volonté individuelle à l'égard de la volonté générale, et une conséquence du commerce d'action et de réaction naturelle et universelle par lequel le monde immatériel tend à l'unité morale, puisqu'il se forme d'après les lois de cet enchaînement à lui propre en un système de perfection spirituelle. Si l'on accorde à ces aperçus autant de vraisemblance qu'il en faut pour qu'il vaille la peine de les mesurer à leurs conséquences, on sera peut-être insensiblement porté, par leur attrait, à un parti en désaccord avec elle. Car alors les irrégularités semblent en grande partie s'évanouir, quand autrement elles sont en contradiction si manifeste et si étonnante avec les rapports moraux et physiques des hommes ici-bas. L'entière moralité des actions ne peut jamais avoir son plein effet, suivant le cours de la nature, dans la vie de l'homme revêtu d'un corps. Elle ne peut l'avoir que dans le monde spirituel, suivant des lois spirituelles encore. Les desseins vrais, les mobiles secrets d'un grand nombre d'efforts que l'impuissance condamne à la stérilité, la victoire remportée sur soi-même, ou quelquefois encore le vice caché par des actions bonnes en apparence, sont le plus souvent perdus, pour les suites physiques, dans l'état corporel. Mais ils devraient être envisagés, dans le monde immatériel, comme des principes féconds et exercés dans leur rapport d'après les lois spirituelles, en vue de la liaison de la volonté privée et de la volonté universelle, c'est-à-dire de l'unité et du tout du monde spirituel, une action conforme à la qualité morale de la volonté libre et en recevoir réciproquement l'influence. Car le côté moral du fait concernant l'état interne de l'esprit ne peut non plus attirer à soi l'action adéquate de toute la morale que dans la communauté immédiate des esprits. Il devrait donc arriver de là que l'âme humaine, déjà dans cette vie et par suite de l'état moral, devrait occuper sa place parmi les substances spirituelles de l'univers, de même que, d'après les lois du mouvement, les matières répandues dans l'immensité de l'espace se disposent entre elles dans un ordre qui est la conséquence de leur force corporelle. Quand donc, enfin, le commerce de l'âme et du monde corporel est rompu par la mort, la vie dans l'autre monde ne serait plus qu'une conséquence naturelle de la liaison où elle s'y serait déjà trouvée dans cette vie. Et toutes les conséquences de la moralité d'ici-bas se retrouveraient alors dans les effets qu'un être en communion indissoluble avec tout le monde spirituel y a déjà pratiqué auparavant d'après les lois qui régissent les esprits. Le présent et l'avenir seraient donc formés comme d'une seule pièce et composeraient un tout continu, même d'après l'ordre de la nature. Cette dernière circonstance est d'une importance toute spéciale. Car dans une conjecture fondée sur les seuls principes de la raison, il y a une grande difficulté si, pour faire disparaître la dissonance qui résulte de l'incomplète harmonie entre la moralité et ses suites dans ce monde, on se trouve obligé de recourir à une volonté divine extraordinaire, par la raison que, si vraisemblable que puisse être le jugement sur cette volonté, d'après nos idées de la sagesse divine, il est toujours fort douteux que les faibles notions de notre entendement n'aient pas été appliquées mal à propos à l'être suprême, puisque l'homme ne peut juger de la volonté qu'en partant de la convenance qu'il perçoit réellement dans le monde, ou qu'il y peut présumer par analogie, suivant l'ordre de la nature, mais qu'il ne peut raisonnablement, s'en rapportant à sa propre sagesse, dont il ferait en même temps une loi à la volonté divine, imaginer des arrangements nouveaux et arbitraires dans le monde présent ou futur. Nous revenons au premier objet de cette méditation, et nous approchons ainsi du but proposé. S'il en est du monde spirituel de la part qui prend notre âme, comme l'indique ce qu'on vient de voir, rien presque ne semble plus étonnant qu'un commerce des esprits ne soit fait par une affaire universelle et ordinaire, et que l'extraordinaire ne soit pas plutôt la rareté des phénomènes que leur possibilité. Cette difficulté peut cependant se résoudre assez bien, et déjà elle a été résolue en partie. Car la présentation qu'a d'elle-même comme un esprit l'âme de l'homme, par une intuition immatérielle, lorsqu'elle se considère dans ses rapports avec les êtres de même nature qu'elle, est toute différente de celle qui a lieu par la conscience, lorsqu'elle se représente comme homme, à l'aide d'une image qui tire son origine de l'impression des organes corporels, image qui est représentée comme un rapport avec les choses matérielles seulement. C'est sans doute le même sujet qui appartient en même temps comme membre de l'un et de l'autre au monde sensible et au monde intelligible. Mais ce n'est pas la même personne, parce que les représentations de l'un de ces mondes, par la suite de leur nature, n'ont rien de commun avec les idées qui accompagnent les représentations de l'autre monde, et qu'ainsi, ce que je pense de moi, comme esprit, ne me revient pas en mémoire comme homme, et que réciproquement, mon état d'homme n'est pour rien dans la représentation de moi-même comme esprit. Du reste, les représentations du monde spirituel, si claires et si intuitives qu'elles puissent être, ne suffisent pas pour en avoir conscience comme homme. D'un autre côté, la représentation de soi-même, c'est-à-dire de l'âme, comme esprit, est bien acquise par le raisonnement, mais elle n'est pour personne une notion intuitive et d'expérience. Cette différence des représentations spirituelles et représentations qui appartiennent à la vie corporelle de l'homme ne peut cependant pas être regardé comme un si grand obstacle que s'en soit fait de toute possibilité d'avoir parfois conscience, même dans cette vie, des influences qui nous viendraient du monde spirituel. Elles peuvent bien, à la vérité, ne pas arriver immédiatement à la conscience personnelle de l'homme, mais cependant pénétrer assez avant pour qu'en vertu de la loi des notions associées, elles excitent les images qui ont avec elles des affinités et éveillent des représentations analogues de nos sens, représentations qui ne sont pas la notion spirituelle même, mais qui en sont cependant des symboles, car au fond, c'est toujours la même substance qui est membre de l'un et de l'autre monde. Et les deux espèces de représentations appartiennent à un seul et même objet et sont unies entre elles. Nous pouvons en faire comprendre jusqu'à un certain point la possibilité, en considérant comment nos idées rationnelles plus élevées, qui se rapprochent passablement des idées spirituelles, prennent habituellement une sorte de vêtement corporel pour paraître plus clair. C'est ainsi que les attributs moraux de la divinité sont représentés sous les idées de colère, de jalousie, de miséricorde, de vengeance, etc. C'est ainsi que les poètes personnifient les vertus, les vices ou d'autres propriétés de la nature, de telle façon cependant que la véritable idée de l'entendement se fait toujours à travers. C'est ainsi encore que le géomètre représente le temps par une ligne, quoique l'espace et le temps n'aient de conformité que dans des rapports et ne s'accordent entre eux que par analogie et jamais quant à la qualité. C'est ainsi également que la représentation de l'éternité divine prend même chez les philosophes l'apparence d'un temps infini, si attentif qu'on soit à ne pas confondre ces deux choses. Une des grandes raisons qui portent généralement les mathématiciens à rejeter les monades de Leibniz, c'est qu'ils ne peuvent se les représenter comme de petites molécules. Il n'est donc pas invraisemblable que des sensations spirituelles puissent passer dans la conscience si elles excitent des fantaisies qui leur soient analogues. De cette manière, des idées qui sont communiquées par une influence spirituelle se revêtiraient des signes de ce langage, qui est d'ailleurs dans les habitudes de l'homme. La présence sentie d'un esprit prendrait l'image d'une figure humaine, l'ordre et la beauté du monde immatériel se traduiraient en fantaisie qui d'ailleurs flatte nos sens dans la vie, etc. Cette espèce de phénomène ne peut cependant pas être quelque chose de commun et d'ordinaire. Elle ne peut se produire que chez des personnes dont les organes sont d'une excitabilité tout à fait extraordinaire et de nature à fortifier les images de la fantaisie suivant l'état interne de l'âme par le mouvement harmonique à un degré supérieur à celui qui se rencontre et qu'on doit rencontrer dans des hommes saints. Ces personnes exceptionnelles seraient assaillies dans certains moments par l'apparence de plusieurs objets qui leur sembleraient extérieurs, et qu'elles prendraient pour la présence de nature spirituelle qui frappe leur sens corporel, quoiqu'il n'y ait là qu'une illusion de l'imagination, de telle sorte cependant que la cause du phénomène serait une véritable influence spirituelle qui ne peut être immédiatement sentie, mais qui ne se manifeste à la conscience que par des images analogues de la fantaisie qui prennent l'apparence des sensations. Les notions provenant de l'éducation ou différentes opinions d'une autre origine joueraient ici un rôle où l'illusion se mêle à la vérité, au fond de quoi se trouve sans doute une sensation spirituelle véritable, mais qui a pris la forme ténébreuse des choses sensibles. Mais il faudra reconnaître ainsi que la propriété de développer ainsi en une claire intuition les impressions du monde spirituel dans cette vie peut y servir difficilement, parce que la sensation spirituelle y est nécessairement liée d'une manière si étroite à la chimère de l'imagination qu'il doit être impossible d'y distinguer le vrai des grossières illusions qui l'entourent. De plus, un pareil état supposant un changement d'équilibre dans les nerfs, auquel l'activité de l'âme sous l'influence d'un sentiment tout spirituel imprime un mouvement qui n'est pas naturel, témoigne d'une véritable maladie. Enfin, il ne serait pas du tout étonnant de trouver en même temps, dans un visionnaire, un fantaste, du moins par rapport aux images accessoires de ces apparitions, parce que des représentations d'une nature étrange, et qui sont inconciliables avec celles de l'état corporel de l'homme, se produisent et introduisent dans la sensation extérieure des images mal assorties, d'où naissent d'affreuses chimères et des figures merveilleuses, qui font illusion au sens trompé par tout cet appareil, quoiqu'elle puisse avoir une véritable influence spirituelle pour fondement. Il n'est pas difficile maintenant de donner une explication vraisemblable des contes de revenants qui se rencontrent si souvent sur le chemin du philosophe et de toutes les influences spirituelles dont U est question ici ou là. Des âmes séparées et de purs esprits ne peuvent certainement se montrer jamais à nos sens extérieurs, ni être d'ailleurs en commerce avec la matière, mais ils peuvent bien agir sur l'esprit de l'homme, qui forment avec eux une grande république, de telle manière que les représentations qu'ils excitent en lui se revêtent, suivant la loi de sa fantaisie, d'images analogues et produisent l'apparence d'objets hors de lui qui leur seraient conformes. Chaque sens est sujet à cette illusion, et quoique cette illusion fût mêlée de chimères absurdes, il n'y aurait pas de raison cependant de n'y pas présumer des influences spirituelles. Je ferais injure à la pénétration du lecteur en insistant sur l'application de ce moyen d'explication. Telle est, en effet, la souplesse des hypothèses métaphysiques. Il faudrait être bien maladroit pour ne pas pouvoir accommoder celle-ci à tout récit merveilleux avant même d'en avoir recherché la véracité, ce qui est impossible dans beaucoup de cas et très impoli dans un plus grand nombre d'autres. Lorsque cependant qu'on suppute les avantages et les inconvénients qui peuvent en résulter pour celui qui est organisé non seulement pour le monde sensible, mais aussi, à un certain degré, pour l'insensible, autant du moins que c'est possible, un don de cette nature ne ressemble pas mal à celui dont Junon gratifia Tirésias, qui commença par le rendre aveugle pour en faire plus sûrement un devin. Car ainsi qu'on peut en juger par les propositions qui précèdent, la connaissance intuitive de l'autre monde ne peut être obtenue ici-bas qu'à la condition de perdre quelque chose de l'entendement qu'on estime nécessaire pour celui-ci. Je ne sais pas non plus si certains philosophes même seraient entièrement affranchis de cette dure condition. Je veux parler de ceux qui dirigent avec tant de soin et de profondeur leur télescope métaphysique vers des régions lointaines et savent en raconter les merveilles. Je ne leur envie du moins aucune de leurs découvertes. Je crains seulement qu'un jour un homme d'un entendement sain et d'un peu d'esprit ne leur fasse entendre la réponse que fit un cocher à Tycho Brahe qui prétendait pouvoir aller de nuit en se guidant sur les étoiles par le chemin le plus court. « Mon bon monsieur, vous pouvez bien savoir ce qui se passe au ciel, mais ici, sur la terre, vous n'êtes qu'un imbécile. »